Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Métropolez-vous. Le pôle médical de la métropole toulousaine bénéficie à juste titre d'une excellente réputation, et ce bien au-delà des frontières de notre région. Son CHU, ses cliniques, sa faculté de médecine et ses laboratoires de recherche sont toujours très bien placés dans les classements publiés chaque année dans la presse spécialisée. À ces structures, il faut ajouter de grands établissements récents comme l'Oncopole, dédié au traitement et à la recherche contre le cancer, et le Gérontopole, dédié lui à la prévention, au traitement des malades et à la recherche contre les pathologies du vieillissement, en particulier la maladie d'Alzheimer. Le vieillissement de la population et les conséquences que cela implique étant un enjeu de santé publique capital pour notre société, nous allons consacrer cette émission au Gérontopole de Toulouse et aux espoirs dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Et pour parler de la recherche sur la maladie d'Alzheimer et découvrir le Gérontopole et son action, nous recevons celui qui a piloté le projet Gérontopole de Toulouse et qui est aujourd'hui le coordonnateur de l'établissement, le professeur Bruno Vélas, que je salue et remercie d'avoir accepté notre invitation. Pour préciser un peu vos fonctions et responsabilités, Bruno Vélas, j'ajouterai que vous êtes chef de service du département de médecine interne et de gériatrie du CHU de Toulouse, membre de l'Académie de médecine. Vous avez également présidé la Société mondiale de gérontologie et de gériatrie. Vous œuvrez en particulier dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer et vous avez publié de nombreux articles sur le sujet que vous connaissez parfaitement, c'est le moins qu'on puisse dire. Coordonnateur du Gérontopole, qu'est-ce que ça veut dire précisément ?
Ça veut dire responsable pour tout ce qui concerne les aspects médicaux et scientifiques du Gérontopole.
Le Gérontopole, ses missions, ses objectifs, et peut-être d'abord les raisons qui ont présidé à sa création, précisément à Toulouse, parce que c'est le premier Gérontopole de France.
C'est le premier, le seul labellisé par le ministère de la Santé. Il a été labellisé en 2010, et notamment son but c'est de permettre l'accès à l'innovation et à la recherche pour les personnes âgées qui en sont bien souvent exclues. En effet, quand apparaissent des innovations, c'est souvent les adultes jeunes qui en profitent les premiers, alors que c'est chez les personnes âgées, les seniors, que ces innovations pourraient être le plus efficaces. On le voit maintenant avec l'accès d'Internet, on le voit avec les nouvelles technologies et on le voit bien sûr avec les médicaments.
Donc ces missions et actions, il y a bien sûr l'accueil des malades, mais encore...
Alors, le Gérontopole, il y a deux grandes parties. Il y a la partie du pôle gériatrie, qui est coordonnée par le professeur Fatinou Rachemi, qui joue le rôle pour toutes les activités cliniques. Et puis, il y a la recherche clinique, et notamment les essais thérapeutiques avec les nouvelles molécules innovantes. Donc, c'est cet ensemble qui constitue le Gérontopole, avec ses différentes missions. Il y a également une autre mission, qui sont les équipes régionales, vieillissement et prévention de la dépendance, qui s'étendent sur l'ensemble de Midi-Pyrénées et dans d'autres départements maintenant de la région occidentale, et qui regroupe plus de 1000 personnes qui travaillent dans ce domaine.
Et bien après ce premier petit tour dans les allées et les services de Gérontopole, nous allons maintenant aller faire un petit tour dans l'actualité métropolitaine. Pour ça, nous avons une charmante guide dans la personne de Corinne Saint-Félix. Métropolez-vous, l'actu. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler dans cette émission. Dans le cadre du plan climat, la remise des prix du défi famille à énergie positive a eu lieu samedi dernier.
Oui, les prix ont été remis au domaine de Candy, aux meilleures équipes participantes en présence des 170 familles inscrites au défi. Pour mémoire, cette opération s'est déroulée entre le 1er décembre 2016 et le 30 avril 2017. Le défi famille et énergie positive, c'est une action de mobilisation des citoyens, mais aussi de prévention de la précarité énergétique. Bref, c'est un concours d'économie d'énergie et d'eau réalisé par des familles volontaires regroupées en équipe. L'objectif est de réduire de 8% la consommation d'énergie dans son logement par le simple fait de changer ses habitudes et d'adopter les bons gestes. Cette année, les familles ont pu constater en moyenne une économie respectivement de 13,7% et de 13,5% sur leur consommation en électricité et en eau.
La recherche d'emploi, une question qui nous concerne tous, ou presque. Nouvelle édition, aujourd'hui et demain, du Carrefour Emploi Toulouse Métropole.
Ce rendez-vous incontournable du recrutement permet de repérer les offres, mais aussi de rencontrer des employeurs. Il a lieu au parc des expositions. Objectif affiché, faire correspondre l'offre et la demande dans de très nombreux secteurs en proposant au public de préparer sa venue, de repérer les employeurs potentiels et de venir muni d'un CV personnalisé pour les rencontrer. Il s'adresse aussi bien aux employés qu'aux ouvriers, techniciens, agents de maîtrise, militaires en reconversion, contremaîtres ou cadres, ainsi qu'aux étudiants en recherche d'apprentissage ou d'une orientation professionnelle, et concerne aussi tout niveau de compétences, de qualifications et d'expérience. 250 employeurs et centres de formation sont présents.
Quels postes cela concerne-t-il, Corinne ?
Eh bien, les postes et contrats proposés sont des CDD, CDI, postes en alternance, contrats à temps partiel, missions à l'international et même offres de stage. Des ateliers et conférences sont proposés tout au long de ces deux journées. L'accent sera plus particulièrement mis cette année sur la filière numérique, informatique, information.
Vous le savez sans doute, nous en étions fait l'écho à Métropole et vous. Depuis janvier, Toulouse Métropole et ses fonctionnaires chargés de protéger la végétation urbaine ne font plus usage de produits chimiques phytosanitaires en matière d'entretien des plantes.
C'est l'heure du zéro phyto sur les 3350 km de voirie du territoire métropolitain toulousain. Alors depuis janvier, un travail de communication et de pédagogie auprès des habitants est fait pour répondre à leurs interrogations sur l'apparition d'herbes sur les trottoirs ou certains espaces publics. Des herbes qui ne sont ni synonymes d'abandon de l'entretien des voies publiques, ni de saleté. L'enjeu écologique est de taille, mais les enjeux sur la santé sont aussi considérables.
C'est-à-dire ?
Eh bien, selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, les pesticides sont à l'origine d'un million d'empoisonnements graves dans le monde chaque année et de 220 000 décès. Les résidus de pesticides peuvent avoir, à plus ou moins long terme, des conséquences néfastes sur la santé lorsqu'ils sont présents dans les aliments, l'eau et l'air. Outre des intoxications aiguës comme les allergies, l'asthme ou encore des maux de tête, l'exposition à ces produits peut entraîner des risques de maladies, de Parkinson ou encore d'Alzheimer. L'arrêt des produits phytosanitaires traduit donc une prise en considération de la santé des habitants de votre commune et des agents chargés de l'entretien particulièrement exposés à ces nuisances. Sachez aussi que cette obligation zéro phyto s'appliquera aux particuliers pour leur jardin en 2019.
Voilà ce flash d'information métropolitain, professeur Vélas, et je voulais évidemment vous inviter à réagir à la dernière information de ce flash, celle qui concerne l'abandon des produits phytosanitaires, des produits chimiques entre autres pour l'entretien de l'espace public. On entend parler du rôle que peuvent avoir ces produits sur la santé de tous les citoyens, et notamment sur la survenue de certaines maladies, comme certains types de cancers, et maladie de Parkinson et maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qu'il en est réellement ? Est-ce qu'on a, si ce n'est des certitudes, en tout cas de forts soupçons dans ce domaine ?
Alors c'est vrai que c'est un problème difficile. Il y a un certain nombre de publications scientifiques qui ont montré des relations entre certains pesticides et le risque de maladies neurodégénératives, Parkinson ou Alzheimer. Cependant, en médecine, pour avoir vraiment une preuve par A plus B, on aime bien avoir des études qu'on appelle randomisées, c'est-à-dire qu'on a des patients qui sont tirés au sort, on a un groupe qui est exposé au produit, l'autre groupe qui n'est pas exposé, et on compare la différence. Et ça, bien évidemment, on ne peut pas le faire avec des produits toxiques. Ce qui fait qu'il y a toujours quelques interrogations, donc il faut un certain nombre de prudence. Prudence dans les deux sens, prudence vis-à-vis de ces produits, bien sûr, mais prudence également vis-à-vis d'attitudes qui seraient trop tranchées.
C'est-à-dire, quand vous dites attitude trop tranchée, si on disait, bon, puisqu'on a de forts soupçons sur le rôle néfaste que peuvent avoir ces produits sur notre santé, ben alors il faut absolument les abandonner tous et tout de suite.
Là, c'est le rôle des politiques. Vous voyez, la science, elle s'arrête là. Nous, on dit, on a ces arguments positifs, ces arguments négatifs. Et après, c'est aux politiques de trancher entre différents risques, qui peut être le risque que des pesticides peuvent entraîner vis-à-vis d'une pathologie, ou également le risque qu'on pourrait avoir si on avait un développement plus important de moustiques, par exemple, même peuvent apporter certaines pathologies. Donc là, la question, quand la science s'arrête, c'est aux politiques de décider.
Oui, c'est pas mon si rôle ici. Que ça pourra avoir l'air au premier abord. Ouais. Cette question devait être abordée au cours de notre échange. Nous allons maintenant le poursuivre en abordant d'autres aspects de notre sujet du jour, le gérontopole de Toulouse et les espoirs dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Suite de Métropolez-vous avec le professeur Bruno Velas, chef du service du département de médecine interne et de gériatrie du CHU de Toulouse et coordonnateur du Gérontopole, pour préciser encore un peu plus les choses concernant cet établissement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que recouvre l'ensemble de ces activités? L'émission Objectif, on en a déjà parlé. Comment il fonctionne et avec qui? Je suppose qu'il y a des effectifs très importants.
Donc le Gérontopole fait partie du CHU de Toulouse. Il comprend à peu près 500 personnes, dont une quarantaine de médecins et une trentaine de chercheurs à des stades élevés. Et donc les missions du Gérontopole sont bien sûr d'accueillir les patients, de les soigner, mais aussi de développer la recherche sur les pathologies liées au vieillissement. Et on a deux axes essentiels. Un, c'est les troubles de la mémoire et la maladie d'Alzheimer. L'autre, c'est la baisse des capacités physiques, la fragilité et la prévention de la dépendance.
Vous pouvez accueillir combien de malades actuellement?
Disons que le Gérontopole voit chaque année plus de 20 000 patients. Donc il y a des patients qui viennent en consultation, d'autres qui vont dans les hôpitaux de jour ou d'autres qui vont dans les services d'hospitalisation.
Est-ce que vous êtes aujourd'hui à un niveau de saturation où il y a une capacité d'accueil suffisante compte tenu des besoins dans ce domaine?
Avec le vieillissement de la population, bien entendu, nous sommes en certaines difficultés et c'est vrai que les services sont plus souvent pleins qu'avec des places libres.
Alors justement, le vieillissement de la population à l'horizon 2050 par exemple, comment devrait évoluer l'espérance de vie en France? Est-ce qu'on est toujours dans ces projections qui nous annoncent une espérance de vie de plus en plus longue, ou il peut y avoir quelques doutes avec justement le surgissement de nouvelles pathologies?
Donc si vous voulez, les effets du vieillissement sont plus faibles que ce qu'on pensait. Quand on étudie le vieillissement, comme on le fait au Gérontopole, au début on disait on va voir ces effets du vieillissement. Ils sont beaucoup plus faibles que ce qu'on pensait. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, bien sûr. Et c'est vrai qu'on a une augmentation de la longévité. Il faut savoir qu'en 1940, il n'y a pas très longtemps, l'espérance de vie était pour les hommes de 60 ans. Vous imaginez, maintenant ça paraît très absurde. Il faut savoir qu'il y a certains pays en Afrique où l'espérance de vie est encore autour de 50-60 ans. Donc ça prouve que les facteurs environnementaux jouent un rôle considérable par rapport à la biologie du vieillissement elle-même. Alors on a une augmentation de la longévité qui est à peu près un trimestre tous les ans ou un an tous les 4 ans, et ce processus continue. Alors il va moins vite qu'il y a quelques années, parce qu'il y a quelques années on a beaucoup gagné au niveau de la mortalité infantile, ce qui entraînait une augmentation beaucoup plus longue. Maintenant on gagne dans des âges beaucoup plus avancés.
Donc ça continue, ça se ralentit un peu. On va arriver à un plateau quand même à un moment donné où on peut espérer que ça se poursuive.
Ça va moins vite, mais ça continue. Alors est-ce qu'il y a un plateau? C'est des questions qui se posent. Est-ce qu'il y a une durée de vie maximum pour l'homme qu'on mettrait autour de 120-130 ans? La question se pose, il y a autant d'arguments pour dire que oui que pour dire que non.
Alors ce vieillissement de la population, mécaniquement, est-ce qu'il entraîne une hausse inéluctable du nombre de personnes dépendantes et en situation de fragilité? Ou est-ce qu'il y a des moyens, des solutions pour enrayer, atténuer ce phénomène?
Alors c'est vrai que l'augmentation des plus de 55-60 ans, on l'a déjà vu. Maintenant, ce qu'on voit, c'est l'augmentation des très âgés, c'est-à-dire des sujets de plus de 85 ans, plus de 90, plus de 95 ans. Et c'est sûr qu'à cet âge, le risque de fragilité est plus important et donc de dépendance. Donc ce n'est pas inéluctable, la dépendance avec le vieillissement n'est pas inéluctable, mais il faut mettre en place les actions pour la prévenir, et cela sans doute dès la cinquantaine. Parce que au niveau de la cinquantaine, on va augmenter nos réserves physiologiques, les capacités, réserves pour la mémoire, réserves pour l'os, pour le muscle. Puis après, on risque d'avoir un certain déclin, et là, il faudra agir au niveau du déclin.
Agir par quels moyens? La prévention, sans doute, avant tout.
Oui, alors la prévention, il faut repérer ce que l'OMS appelle la perte des capacités intrinsèques. Donc on a un certain nombre de capacités, à 40 ans, on court moins vite qu'à 20 ans, à 60 ans, moins vite qu'à 40, à 80 ans, moins vite qu'à 60. Mais on peut continuer à courir sans doute. Donc vous voyez, c'est ces capacités intrinsèques qu'il faut savoir mesurer, et dès qu'il y a un petit déclin, les monitorer et essayer de les regagner. Et on peut regagner.
Donc il y a des tests qui existent pour évaluer ça? Est-ce qu'on peut penser qu'à terme, ces tests, tous autant que nous sommes, nous devrons les passer à, je ne sais pas, à 50 ans par exemple?
Alors on a des tests qu'on appelle fonctionnels qui sont précis et qui fonctionnent bien, notamment pour la mémoire. Maintenant on est capable de mesurer de façon précise la mémoire avec ce qu'on appelle des tests composites. Il en est de même pour la force musculaire. Alors c'est vrai que dans l'avenir il faudra passer ces tests et on travaille maintenant sur des versions qu'on pourrait avoir sur Internet. Donc peut-être chez soi on pourra passer un certain nombre de tests et puis si jamais on observe un déclin, à ce moment-là il faut en parler à son médecin pour essayer de comprendre ce qui se passe.
Dans le tableau des pathologies dues au vieillissement, que représente la maladie d'Alzheimer elle-même?
La maladie d'Alzheimer représente très certainement l'un des problèmes essentiels, si ce n'est le problème essentiel. Cette maladie d'Alzheimer, on dit qu'elle touche actuellement en France près de 800 000 sujets. Donc vous voyez l'importance. Alors quand on réfléchit à ces mécanismes physiopathologiques qui correspondent à la production d'une protéine anormale au niveau du cerveau, on sait qu'à peu près 5% des sujets entre 50 et 60 ans ont ces lésions, 10% entre 60 et 70 ans et 30% après 70 ans. Ça ne veut pas dire que tous les sujets vont présenter une maladie d'Alzheimer clinique, mais ils sont à risque.
Il y aurait tout de même, donc après l'âge de 70 ans, près d'une personne sur trois qui aurait la maladie d'Alzheimer ou qui serait susceptible de la développer en tout cas.
Donc il y a une personne sur trois qui a des lésions biologiques en faveur d'une maladie d'Alzheimer. Et si les personnes ne décèdent pas entre-temps d'autres choses, il y a 30% des personnes après 70 ans qui vont présenter une maladie d'Alzheimer.
Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des mécanismes à l'origine de la maladie et de son évolution? Vous en avez un petit peu parlé, donc la production d'une certaine protéine.
Oui, alors c'est la protéine amyloïde, bêta-amyloïde. Donc on peut faire un parallélisme entre les maladies cardiovasculaires et la maladie d'Alzheimer. Dans les maladies cardiovasculaires, c'est des plaques d'athérome qui apparaissent souvent après la quarantaine. Et quand un sujet a des plaques d'athérome dans les vaisseaux, il a plus de risques de faire un accident vasculaire cérébral ou coronarien, sans pour qu'il en fasse pour autant à tous les coups. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est pas des plaques d'athérome, c'est des plaques amyloïdes, une production de ce peptide amyloïde de façon anormale qui s'accumule dans le cerveau et qui va créer ce qu'on appelait avant les plaques séniles, hein, ces plaques amyloïdes qu'on retrouve, donc on l'a vu tout à l'heure, chez une proportion importante de personnes. Et quand un sujet a ces plaques amyloïdes, il va pas faire à tous les coups, mais il a beaucoup plus de risques de présenter ensuite une pathologie de type Alzheimer.
Alors, dans la prise en charge de cette maladie aujourd'hui, la prise en charge et les traitements, quel est le rôle et l'action du gérontopole? Au-delà de l'accueil des malades, quelles sont les activités proposées, que ce soit au titre de la prévention que des soins?
Alors le gérontopole intervient à tous les stades de la maladie. Donc le gérontopole peut accueillir les patients les plus sévères, notamment en aigu. Quand il y a des décompensations, c'est une maladie qui peut entraîner des complications psychiatriques à type d'hallucinations, d'agitation, d'agressivité. Donc le gérontopole agit à ce niveau-là, comme il agit pour le diagnostic, mais comme il agit également pour la prévention. Donc au niveau du centre mémoire du gérontopole, qui fait partie du CM2R, centre mémoire de recherche et de ressources sur la maladie d'Alzheimer, c'est là qu'on peut faire des diagnostics précoces, c'est des sujets qui se plaignent de la mémoire, pour voir si ce trouble de la mémoire est banal, comme on peut l'avoir avec l'avance en âge, ou s'il est en faveur d'une pathologie de type Alzheimer. Et là, on peut proposer des activités de recherche et d'intervention avec les nouvelles molécules en cours de développement.
Aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer peut toucher des personnes à partir de quel âge?
Très jeune. Les premiers patients qu'on a eus, c'était autour de 38 ans.
Ah oui, tout de même.
Oui. Alors, par contre, c'est rare. Mais il y a un nombre assez important de patients, autour de 40, 50, 55 ans, qui ont une maladie d'Alzheimer. Le pic, c'est quand même après 70 ans. Hein. Mais ça peut atteindre des malades jeunes. Et c'est des malades qui ont souvent une mutation génétique. Et il y a notamment une famille en Colombie où il y a plus de 300 patients du fait d'une consanguinité et qui développent une maladie d'Alzheimer.
Donc il peut y avoir un facteur héréditaire dans la survenue de la maladie d'Alzheimer, ce qui voudrait dire que lorsqu'on a des personnes dans notre famille, a fortiori des parents proches, on est plus un sujet à risque que d'autres.
Alors l'hérédité est compliquée dans la maladie d'Alzheimer. D'une part, il y a des rares familles qui ont cette mutation génétique où tout le monde a une maladie d'Alzheimer dès l'âge de 40 ans. Ça touche à peu près 300 familles dans le monde, ce qui est assez faible. Mais le fait d'avoir ses parents, son frère, sa sœur qui a eu une maladie d'Alzheimer augmente un petit peu le risque de maladie d'Alzheimer, comme quand on a eu dans la famille quelqu'un qui a une maladie cardiovasculaire, une maladie oncologique dans un domaine particulier. Et ça nécessite une vigilance plus importante.
La recherche, maintenant, bien sûr, on va parler de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Où en est-on en général dans le monde, et à Toulouse en particulier, parce que je sais qu'on est en pointe à Toulouse, qui mènent ces recherches d'ailleurs, parce que ce sont des laboratoires privés, l'université, des structures du CHU et du Gérontopole. Comment tout ça fonctionne-t-il?
Alors, si vous voulez, un petit rappel de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. On pourrait dire de 1990 à 2000, on a fait une recherche thérapeutique, mais chez des patients qui avaient déjà une forme sévère de maladie d'Alzheimer et une bonne partie du cerveau qui était malheureusement détruite. Donc c'était trop tard pour avoir une véritable efficacité. Ensuite, de 2000 à 2010, on a traité des patients qui avaient une forme plus légère, mais on n'avait pas de diagnostic précis, ni de traitement spécifique. Mais maintenant, depuis 2010, on est capable de traiter des patients qui ont une forme légère, donc avant une destruction importante au niveau du cerveau. Et puis, grâce aux biomarqueurs, on peut faire un diagnostic précis et on propose des thérapies ciblées. Donc, on peut avoir des avancées importantes. Alors, comme vous en rendez compte, pour réaliser ces études, il faut qu'on travaille tous ensemble. Donc, des industriels du médicament qui vont trouver des nouvelles molécules, ainsi que des laboratoires de biologie fondamentale. Ensuite, des équipes cliniques qui vont pouvoir réaliser les interventions avec les patients et les familles. Hein. Vraiment, c'est en agissant tous qu'on sera efficace. Et nos collègues américains disent que, selon nos capacités de mobilisation entre les académiques, les industriels, les scientifiques, les cliniciens, les familles et les patients, on va trouver un traitement de la maladie d'Alzheimer, que ce soit dans les 10 ans qui viennent ou dans une ou deux générations. Et donc l'élément, c'est de pouvoir sauver une génération.
Qu'est-ce qui va faire que le mouvement va s'accélérer ou ne pas s'accélérer suffisamment pour sauver une génération, comme vous venez de le dire? Il y a vraiment une volonté des États et des moyens financiers, sans doute. Donc il faut aussi des financements privés.
Oui, et puis ce qu'il faut également, c'est une volonté de tout le monde. Si on prend le parallélisme avec le sida touchait des patients jeunes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, on voyait à la télévision des manifestations de patients avec des pancartes qui disent « on veut des avancées thérapeutiques, on veut participer à des essais thérapeutiques ». La maladie d'Alzheimer, elle touche souvent des patients plus âgés, qui ont en plus de troubles de la mémoire et qui ne vont pas se mobiliser. Donc il faut qu'on se mobilise avec eux et pour eux. Et c'est très important parce que plus vite on réalisera ces essais thérapeutiques, plus rapidement on verra ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Les traitements, en tout cas la prévention d'une part, les traitements d'autre part pour la maladie d'Alzheimer, quelle forme ils pourront prendre?
Alors si vous voulez, nous on est actuellement au sein du Gérontopole où on coordonne la plupart des études européennes sur la maladie d'Alzheimer en étroite collaboration avec nos collègues aux États-Unis. Donc on a actuellement deux grands essais pour un sujet de plus de 70 ans qui se plaint de la mémoire, qui commence à avoir des petits troubles de la mémoire. On a actuellement une étude avec un produit composite, un cocktail nutritionnel dont le but est de protéger le cerveau contre le vieillissement. Donc ça va durer à peu près 4 ans. On compare des sujets qui prennent ce produit par rapport à d'autres, mais ils ont tous un suivi précis de la mémoire. Après ça, on a d'autres études qui pour des patients plus jeunes, par exemple quelqu'un qui a des antécédents notamment familiaux de maladie d'Alzheimer, qui se plaint de troubles de la mémoire, qui a moins de 70 ans, chez lui, grâce à un gros programme européen qui s'appelle EPAD, European Prevention d'Alzheimer Disease, on est capable, grâce à la médecine de précision, avec les biomarqueurs, de voir s'il a déjà les premières lésions de la maladie. Alors s'il ne les a pas, le sujet peut être rassuré, il ne va sans doute pas présenter de maladie d'Alzheimer d'ici 10 à même plus longtemps. Si par contre le patient a déjà ses premiers signes biologiques, il nécessite un suivi plus rapproché et éventuellement, si on observait un déclin de la mémoire, de participer à des essais thérapeutiques avec des molécules maintenant qui visent à faire disparaître ces plaques amyloïdes. Et on a un certain nombre d'anticorps monoclonaux qui vont dans cette direction.
Et puis je crois aussi, en termes de prévention en tout cas, la gymnastique intellectuelle, comme on dit, c'est fondamental, les exercices de mémoire, pas rester du coup trop connecté peut-être à des outils informatiques et autres qui évitent de se livrer à ces petits exercices.
Tout à fait, donc Toulouse a réalisé la première intervention multidomaine, hein, c'est-à-dire qu'il y a des travaux qui ont montré que l'exercice physique, la nutrition, les exercices cognitifs pouvaient protéger notamment le cerveau et prévenir l'apparition des troubles de la mémoire. Donc l'idée a été de faire l'ensemble de ces exercices et on observe un certain effet au niveau de la mémoire. Donc on le met en place. Maintenant, grâce à l'aide du conseil du département, on a mis en place des ateliers, notamment d'intervention multidomaine, qui sont disponibles gratuitement au sein du Gérontopole. Et également, on travaille sur une plateforme informatique avec l'aide du conseil du département pour le mettre à la disposition de la population, des personnes qui peuvent le faire chez elles.
Merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations et explications, Bruno Vélas. Le vieillissement de la population, ses conséquences, les pathologies, la fragilité et la dépendance qu'il entraîne sont un enjeu majeur de santé publique pour les années à venir. Il n'est guère de famille qui ne soit touchée de près ou de loin par cette terrible épreuve qu'est la maladie d'Alzheimer. Il y a de quoi s'inquiéter, avoir peur, c'est vrai. Cependant, vous avez pu le constater, il y a vraiment beaucoup de recherches dans le domaine, beaucoup de gens, du personnel soignant aux médecins et chercheurs, qui œuvrent pour la prévention, les soins et la guérison à terme de la maladie. Toulouse et son gérontopole sont en pointe dans la lutte contre ce fléau. Nous avons essayé au cours de cette émission de vous présenter le plus juste tableau possible de la situation actuelle et donner, je veux le croire, quelques raisons d'espérer. Vous pouvez consulter bien sûr le site web du CHU Toulouse et du gérontopole www.chu-toulouse.fr à la rubrique gérontopole pour en savoir plus. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Francky Guéret. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.